France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Dans un climat marqué par des tensions politiques accrues, une défiance généralisée envers les institutions et un creusement des inégalités, l'impression de vivre un moment de désordre s'est imposée. Les crises semblent se répondre, se superposer, sans que l'on saisisse toujours ce qui les relie. Alors faut-il y voir une succession d'événements contingents ou le signe de dynamique plus profonde à l'œuvre ? Sommes-nous confrontés à une turbulence passagère ou à un véritable changement de cycle historique? Pour nous éclairer ce soir, un invité, Peter Turchin, bonsoir.
Thank you.
Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'étude de l'évolution des sociétés et vous signez cet ouvrage passionnant intitulé « Le chaos qui vient, élite contre élite et la voie de la désintégration politique », un ouvrage qui a paru le 10 octobre 2024 aux éditions du Cherche Midi. C'est votre premier ouvrage traduit en français et merci à Pascal Fougère qui interprète cette discussion ce soir. Merci d'être dans Questions du soir. Alors on va parler, Peter Turchin, du cœur, du contenu, de la substance même de votre ouvrage, le rôle des élites, l'appauvrissement des couches populaires dans l'effondrement des sociétés. Mais je voudrais que l'on commence par un point de méthodologie. Qu'est-ce que la cliodynamique dont vous vous revendiquez ? Est-ce une science pour lire les cycles de l'histoire ? Et si oui, de quelle façon ?
Well, history is a wonderful science.
Alors l'histoire, c'est une science formidable, mais les historiens typiquement proposent des explications, mais ils ne confrontent pas leurs hypothèses. Et ce que fait, c'est ce que fait la cliodynamique, donc avec une bonne vieille approche scientifique. Il y a plus de 200 théories sur pourquoi l'Empire romain s'est effondré. Et donc, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous traduisons ces théories en modèles mathématiques et ça permet d'extraire, en fait, des hypothèses, des prédictions, et ensuite, on les teste avec des énormes bases de données historiques et ça permet, en fait, de mieux comprendre en fait les différentes hypothèses et les prédictions qui vont avec.
Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes au fond meilleur que les historiens. Lorsque vous nous dites, par exemple, que les historiens ne confrontent pas leurs hypothèses, peut-on véritablement dire ça ? Ils confrontent déjà leurs hypothèses entre eux, entre chercheurs, parmi leurs pairs.
Not at all.
Non, pas vraiment. La cliodynamique n'est pas contre l'histoire. Nous travaillons avec des historiens de manière à tester nos hypothèses par rapport aux données. Et pour avoir les données, on se rapproche d'historiens. Non? Donc, l'histoire est tout à fait possible sans la cliodynamique, mais la cliodynamique n'est pas possible sans l'histoire.
Alors donnez-nous un exemple très concret. Vous agrégez dans des bases de données massives des dizaines de milliers de données historiques. Par exemple, sur quoi vous fondez-vous et est-ce que vous avez, j'allais dire, une illustration très concrète d'un travail récent que vous auriez entrepris ?
Yes, think about it. We live in a wonderful,
réfléchissez un petit peu une société complexe en fait, hein, organisée comme les États-Unis. Hein, mais pourquoi est-ce que sur les 10 000 dernières années, les humains se sont affrontés ? Il y a des milliers de théories. Il y en a certaines qu'on a dans la littérature. Il y en a qui parlent de la fonction des États par rapport aux citoyens. On parle aussi de l'importance des conflits extérieurs comme les guerres. Et donc, nous, ce que nous faisons, nous avons testé 17 hypothèses différentes. Ça nous a en fait pris 10 ans. Hein. Donc, on a collecté en fait fait énormément de données. Ces chats, c'était en fait le dieu de l'écriture en Égypte. C'est le nom qu'on a donné à cette base de données. Donc, c'est notre patronne en quelque sorte. Et ce qu'on a fait une fois qu'on a vu ou révisé toutes ces analyses, il y avait deux groupes d'hypothèses qui fonctionnait. Donc d'abord, c'est dire que la culture fonctionnait, c'est-à-dire que la culture est évidemment quelque chose d'essentiel quand on construit une société. Mais il y avait d'autres théories fonctionnelles sur le commerce et puis des choses qui parlaient de conflits intérieurs. En fait, les données penchaient en faveur donc des conflits externes aux politiques elles-mêmes, en fait. Et c'était cette compétition, en fait, qui a amené les gens à être violents. Et c'était aussi quelque chose qui rendait, en fait, les institutions plus complexes, puisque, bien sûr, au fur et à mesure qu'on grandit, ça demande de complexifier l'organisation.
Alors, entrons dans le cœur de votre ouvrage, Peter Turchin, un ouvrage intitulé « Le chaos qui vient ». Vous tentez de répondre notamment à une question, pourquoi les sociétés s'effondrent-elles? Et l'un des facteurs que vous identifiez parmi d'autres, c'est la surproduction des élites. Les élites se multiplient plus vite que le nombre de positions de pouvoir disponibles et c'est cela qui va engendrer en partie une forme de chaos. Alors expliquez-nous en quoi cette surproduction des élites est selon vous fondamentale.
Yes, so this is in fact in a way the opposite question. So
je dirais l'opposé de la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des grandes sociétés évoluent, et puis l'autre question, c'est pourquoi elles s'effondrent périodiquement, ces grandes sociétés.
Et
l'un des moteurs pour l'instabilité est la surproduction des élites. Alors, c'est quoi ? Les élites, c'est une définition neutre en sociologie, c'est les gens qui concentrent les pouvoirs sociaux entre leurs mains. Et il n'y a pas de société qui ne peuvent pas fonctionner, les sociétés humaines ne peuvent pas fonctionner sans élites. La manière, en fait, dont les élites fonctionnent deviennent absolument cruciales pour le fonctionnement des sociétés, pour une variété de raisons. Il y a beaucoup d'aspects des élites et les élites, elles sont en concurrence pour occuper des positions. Alors, c'est bien la compétition sur certains aspects, mais actuellement, on se retrouve avec sept aspirants pour chaque position disponible. Et donc, c'est quelque chose qui fait problème. Et aujourd'hui, effectivement, on a la malchance de vivre dans une de ces périodes de désintégration.
Plusieurs questions à vous poser, Peter Turchin. La première d'entre elles, liée à la définition que vous donnez des élites. Est-ce à dire que vous mettez dans le même panier les élites économiques, financières, politiques, médiatiques, les élites intellectuelles aussi, dont vous faites partie ? Cette surproduction d'élites vaut pour l'ensemble de ces sous-catégories?
Les élites sont celles donc qui concentrent les pouvoirs sociaux. Mm-hmm. Donc il y a la religion. Troisièmement, c'est la politique. et la bureaucratie, et ensuite on est sur le soft power, donc la persuasion. Et donc dans, on a les capitaines d'industrie, on a les politiciens avec les présidents, et on a les influenceurs, puis on a les religieux. Donc dans les sociétés, il y a les différents types d'élites vont être plus importants que les autres. Hein, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, ce sont les élites économiques qui sont les plus importantes. En France, c'est les élites administratives qui sont les plus importantes. Donc, selon la combinaison qu'offrent ces quatre types d'élites, il y a la reproduction qui va se faire de manière différente. Par exemple, si on parle des élites économiques, ils se débrouillent pour payer leurs ouvriers moins en moins, et donc, évidemment, leur richesse est créée par le reste de la population en raison de ce mécanisme très général. Donc, on est face à une pompe de richesse, en fait, hein, et on se dirait, par exemple, que les États-Unis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aux États-Unis ? C'est-à-dire que les capitaines d'industrie s'enrichissent pardon, au détriment de la population. Hein. Mais en 1970, à la fin des années 70, quand la pompe à richesse s'est vraiment enclenchée, on a eu 10 fois plus de millionnaires et de milliardaires. Et aujourd'hui, les personnes riches, les millionnaires et les milliardaires, ont des ambitions politiques. Mais on a toujours, en fait, le même nombre de postes qui sont disponibles. Et donc, c'est là que la crise, en fait, naît chez les aspirants. Et c'est là qu'il y a un problème dans la reproduction des élites.
On en vient donc, Peter Turchin, au deuxième facteur que vous identifiez. Je vous cite, il est temps d'intégrer le deuxième facteur dans notre modèle de stabilité sociale, l'appauvrissement des classes populaires. Alors, en quoi joue-t-il là aussi fondamentalement ce facteur-ci dans l'effondrement, là, cette fois-ci, des sociétés présentes et historiques ?
Yes, so in fact, the major driver is, as I mentioned, is the wealth pump.
Je dirais en fait que donc l'élément moteur, c'est vraiment cette pompe à richesse. Si on prend par exemple le Moyen Âge, les propriétaires oppressaient les paysans, et dans la société capitaliste, ce sont les capitaines d'industrie qui exploitent les employés.
Encore une fois, vous me demandez de répéter ma question. En quoi l'appauvrissement des classes populaires joue-t-il un rôle absolument fondamental ?
Cette pompe à richesse crée une isolation puisqu'il prive les gens, la majeure partie des gens, de richesse. Hein. Et donc, évidemment, les gens sont tellement mécontents qu'ils sont faciles à manipuler et à mobiliser. Et d'un autre côté, on voit cette surproduction des élites et ces élites qui n'arrivent pas en fait à obtenir des positions de pouvoir donc se mettent à en conflit avec le régime hein, et donc on a donc des contraires qui créent une situation explosive. La population, l'ensemble de la population n'est pas bonne pour, n'est pas douée pour s'organiser, on va dire, elle a besoin besoin de leaders. Et elle trouve ces leaders chez les gens qui n'ont pas pu avoir de position. C'est là, par exemple, ce qui s'est passé avec Fidel Castro. Des gens qui sont capables, des gens qui sont de bons orateurs. Et donc, ce sont des gens qui sont capables de mobiliser leur énergie orale pour convaincre, en fait, la population.
Alors, je voudrais qu'on prenne, Peter Turchin, des exemples très concrets pour tenter d'illustrer votre thèse. Commençons par la révolte des Taiping, 1851-1864. C'est l'une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire mondiale. On en écoute un bref résumé.
En 1843, un petit instituteur de village cantonais, Hong Xiuquan, âgé de 30 ans, entreprend de prêcher une nouvelle religion aux paysans de sa province. 8 ans plus tard, le 1er janvier 1851, il défie ouvertement la cour de Pékin, se proclame empereur, fonde le Taiping Tianguo et part à la conquête de la Chine. Ses paysans sont devenus dans l'intervalle une armée enthousiaste et disciplinée qui grossit de jour en jour. Ils ont brûlé leurs maisons et mis leurs biens en commun. Ils font à Dieu des prières quotidiennes et observent les 10 commandements. Ces soldats qui se battent comme des lions ne se permettent ni de piller, ni de boire, ni de fumer, ni de jouer. En 1853, ils prennent Nankin et leur royaume s'étend sur plusieurs provinces. Pékin même est alors à 2 doigts de tomber entre leurs mains.
Archive, et cela s'entend de 1955, Peter Turchin. Cette révolte des Taiping, comment illustre-t-elle cette surproduction des élites et, dans le même temps, cet appauvrissement relatif des couches populaires chinoises?
Yes, so the Qing dynasty came
Alors,
to power.
Alors, cette dynastie Qing arrive au pouvoir au milieu du XVIIe siècle en Chine. Et pour les premières 150 à 200 ans, leur règne s'est plutôt bien passé. L'État était fort, la population était heureuse et ça fonctionnait bien. Mais malheureusement pour eux, ils travaillaient trop bien parce que la population, en fait, s'est multiplié par 4. Donc, 4 fois plus de gens donc au 19e siècle, ce qui évidemment a créé une pression sur les ressources, ce qui a eu pour conséquence l'appauvrissement de certaines couches de la population. Et donc, il y avait d'autres élites économiques qui se débrouillaient bien puisqu'ils utilisaient en fait une main-d'œuvre bon marché et vendaient leurs marchandises. Et il fallait en fait, pour obtenir des positions dans cet système politique, passer des examens de plus en plus difficiles. Donc on avait 5 à 10 fois plus de personnes qui se présentaient pour obtenir ces positions de pouvoir, et il y avait de plus en plus de personnes qui étaient frustrées et mécontentes. Et donc, il y avait un certain nombre de capitaines qui n'ont pas réussi, en fait, ces examens. C'était des gens très intelligents, mais ce n'était pas possible de tous les intégrer dans la bureaucratie. Donc, ces gens ont investi leur énergie ailleurs et ils se sont rendus dans les campagnes et les gens étaient tellement pauvres alors qu'ils ont réussi à les rassembler et à se mettre à lutter contre le pouvoir établi. Ils ont établi un nouveau régime, etc. Voilà, qu'ils appelaient le régime de paix, mais qui n'était pas en fait très pacifique.
Et vous écrivez ainsi, plus de la moitié des cadres de la révolte des Taiping étaient eux aussi des recalés à l'examen impérial. Fin de citation. Est-ce que votre prisme, votre grille d'analyse, Peter Turchin, s'applique également à la Révolution française de 1789?
Yes, the French Revolution was
oui, tout à fait. La Révolution française a été un exemple historique sur lequel on s'est basé. Donc, c'est une théorie qui a été proposée par un sociologue américain, Jack Goldstone, qui a utilisé la Révolution française et la Révolution industrielle comme modèle de changement. Hein. Et le processus était aussi très important. Évidemment, la population, les gens pauvres, en fait, qui n'avaient pas, qui avaient faim, qui ne pouvaient pas, en fait, acheter le pain, mais les nobles ne payaient pas leurs impôts. Ils avaient des terres qui, donc, avaient beaucoup de valeur puisqu'elles produisaient. Donc, c'était une fois de plus des gens qui savaient profiter d'une main-d'œuvre bon marché. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de nobles ont, au lieu de faire hériter un seul membre de la famille, les ont divisés. Donc, on a eu, en fait, énormément de nobles, dont beaucoup étaient extrêmement pauvres. Et donc, ils se tournaient vers l'État pour être employés par l'État, en tant qu'officier, par exemple. Mais l'État est rapidement devenu insolvable. Il essayait de les aider. Mais évidemment, l'État avait beaucoup de dépenses, puisque personne ne pouvait plus payer les impôts. Et donc, la Révolution française s'est produite en raison de la faillite financière de l'État français. Et donc, beaucoup de contre-élites, hein, effectivement, se sont organisées et ont organisé une rébellion, une révolution.
Alors, venons-en au chaos qui vient. C'est le titre de votre ouvrage et je vous cite à nouveau Peter Turchin. Vous écrivez « Dans des pays contemporains comme les États-Unis ou la France, les facteurs du chaos peuvent peu ou prou se limiter à un tango mortel associant élites de plus en plus querelleuses et masses de plus en plus impuissantes ». Fin de citation. On y est dans cette période de transition que vous décrivez à l'instant. Si l'on commence par les États-Unis, y sommes-nous, Peter Turchin ?
Alors, les États-Unis sont très certainement à cette étape-là. Il y avait un modèle sur lequel on a travaillé, qui était la structure démographique des États-Unis, et on s'est aperçu qu'on est vraiment sur le chemin du chaos, hein, et c'est une des raisons pour laquelle les gens s'intéressent à mon livre. Et depuis que Trump est devenu président pour la deuxième fois, il y a une révolution des élites, il y a le mouvement MAGA et il est en train d'essayer de remplacer l'élite démocrate par ces gens-là. On voit que Trump et les MAGA sont en train de changer le génome culturel des États-Unis et maintenant la France.
Donc, la France, alors.
Donc, la France a démarré, a commencé à être sur cette pente glissante bien plus tard que les États-Unis. On peut effectivement parler de modifications sur la structure démographique. Donc, la France n'est pas autant dans le trou que les États-Unis. Mais toute personne qui vit en France ou qui lit effectivement les journaux voient que la France est en grande difficulté. Hein. La France a toujours un régime assez démocratique et je peux parler un peu plus pour la France de la surproduction des élites, c'est-à-dire que on a des chiffres en fait pour la France. Donc parlons de cette surproduction des élites. En fait, la tradition de production des élites, c'était via des grandes écoles. Évidemment, on a augmenté le nombre de grandes écoles, donc il y a plus de diplômés. Mais en plus de ça, il y a eu beaucoup d'écoles privées, en fait, principalement des écoles de commerce. Il y en avait peut-être 40 dans les années 50, et maintenant, il y en a 300. Donc, là aussi, il y a beaucoup de diplômés. Et donc, en plus de ces élites traditionnelles, on va dire, on a ces élites qui sortent de ces nouvelles écoles, mais la France est fauchée, il faut le dire comme ça. Il y a un déficit et le gouvernement présent essaye de résoudre cette question du déficit sur le dos des gens. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a ces trois facteurs. On a la reproduction des élites, on a cette surpopulation des élites et puis la question de la démographie aussi.
En quelques mots, vraiment en quelques mots, Peter Turchin, car on arrive à la fin de cet échange, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans votre approche, celui des grandes variables qui dirigeraient tout, et cela aurait un côté, au fond, fataliste? Et à quoi sert-il de se mobiliser lorsque l'on fait de l'histoire comme vous? Est-ce que, au fond, le changement est impossible à susciter depuis les êtres que nous sommes?
Loin de ça, je suis vraiment un optimiste, je n'aime pas être vu comme le professeur de mauvaise augure. Sur les 5000 dernières années, lorsque les États sont apparus, ils sont devenus beaucoup plus solides. Les premiers étaient tout à fait fragiles, donc il y a eu au courant de ces années des institutions notamment sur ces États sont sains, et on a deuxièmement donc plusieurs exemples de sociétés qui sont rentrées dans la crise mais qui ont réussi en fait à sortir de la crise sans bain de sang. L'un des exemples en fait c'est le New Deal au XXe siècle aux États-Unis.
Merci Peter Turchin, je rappelle le titre de votre ouvrage Le Chaos qui vient. Merci d'être venu ce soir sur France Culture.